J'espère que vous allez bien. Cette belle journée, on va méditer la parole de Dieu parce que c'est ce qui est notre raison de respirer, de vivre. La soif de nos cœurs, on a chanté « Seigneur, que ma coupe déborde ». On a besoin d'être nourri et d'être rempli par Dieu ce matin. Je vais laisser tout de suite sur vos écrans une vidéo s'afficher.
I don't know you notice anything. It's getting dark and it's getting cold and the nights are getting long. And I don't know if you even notice it all. That I'm long gone. And I don't know if you even notice.
Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. On a commencé la semaine dernière avec une introduction. Aujourd'hui, c'est la première des messages, le premier des messages concernant le fait d'être conduit par l'Esprit. Et ce matin, on va ouvrir notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. On va suivre l'apôtre Paul, et comme je vous l'avais annoncé lors de l'introduction, la première personne que tu dois connaître pour être conduit par l'Esprit, c'est bien connaître Dieu. Et ce matin, on va voir combien le fait d'avoir une révélation personnelle de Dieu est indispensable pour toi qui veux être conduit par l'Esprit. Et ma question de ce matin, c'est est-ce que tu connais Dieu ? Alors vous allez me dire, mais pasteur, moi je suis né dans une famille chrétienne, j'ai mes parents qui m'ont enseigné, j'ai une connaissance de Dieu, bien sûr, j'ai lu ma Bible, régulièrement ça m'arrive de prier, oui, est-ce que tu connais Dieu ? Je ne parle pas de ta religion évangélique, je ne parle pas de ta religion chrétienne, je parle de, est-ce que tu connais Dieu ? Est-ce que Dieu, pour toi, c'est une religion ou bien c'est une relation ? Est-ce que Dieu, pour toi, c'est une croyance ou c'est un ami? C'est pas pareil. Et ce matin, on va être obligé de se positionner parce qu'on va voir une personne qui s'appelle l'apôtre Paul, combien Dieu va bouleverser sa vie. Le sous-titre, donc « Face à Dieu conduit par une révélation », et mon thème, c'est « Le loup et l'agneau ». Vous connaissez toutes les fables du loup et de l'agneau? Eh bien, une même personne peut être loup et agneau. On peut être quelqu'un de très croyant et être un loup. Et lorsque tu as une vraie, véritable révélation de qui est Dieu, les autres, tes amis, doivent te connaître comme un agneau. C'est une des caractéristiques de ceux qui ont rencontré Dieu. C'est que leur ADN spirituel a changé. Il y a une douceur qui vient dans ta vie lorsque tu as une révélation de Dieu. On ouvre ensemble notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. C'est parti pour l'analyse de la vie de l'apôtre Paul. C'est le début, c'est la première leçon. Face à Dieu, conduit par une révélation. Chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres, je lis dans la version Semeur, le verset 1er. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez chercher avec moi les autres, je pense que ça va s'afficher sur vos écrans. Le loup, première partie. Paul ne pensait qu'à menacer. En fait, on l'appelle Saul parce que Saul, c'est son nom juif, Paul, c'est son nom grec. Ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Les lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. En fait, c'était tellement grave à l'époque d'être chrétien qu'il y avait un motif qui était autorisé même par les Romains, le fait d'être dans une hérésie, parce que les chrétiens, on les appelait une secte en fait, par rapport au polythéisme de l'époque. On tolérait le judaïsme, on tolérait le polythéisme romain qui venait du grec, mais on ne tolérait pas toutes les personnes qui étaient chrétiennes. C'était une secte, on appelait la secte chrétienne, la voie. Toutes les personnes qui croyaient que Jésus était le Messie étaient dans une secte. C'est comme ça qu'on voyait les choses. C'était tellement grave à l'époque que les Romains avaient toléré à ce qu'il y ait extradition pour motif de secte. C'était autorisé. Ce qui fait que l'apôtre Paul avait des lettres d'extradition pour aller chercher ceux qui se disaient chrétiens à Damas, pour les renvoyer à Jérusalem. Pourquoi ? Parce que c'était un acte tellement grave que d'être dans la secte chrétienne, que ça méritait probablement soit la prison, soit la mort. Et seul le tribunal judaïque de Jérusalem pouvait prononcer cette sentence. C'est pour ça que l'apôtre Paul allait les chercher. Donc il disait, il se dirigeait donc vers Damas et s'approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, mais pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. » Mais relève-toi, entre dans la ville. Et là, on te dira ce que tu dois faire. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, donne-nous une révélation de qui tu es. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ce message parce que on croit te connaître, on dit te connaître, on prétend, Seigneur, beaucoup de choses concernant Dieu et la religion, mais on ne te connaît pas forcément personnellement. Je te prie pour que ce matin, on ait une véritable, une fraîche révélation de la personne de Jésus. Pour qu'un jour au ciel, on ne soit pas gêné lorsque on te verra, on dirait « Ah Seigneur, tu étais ça alors ». Donne-nous dès ce matin de comprendre qui tu es au profond de notre être. Au nom de Jésus, nous te prions notre Dieu. Amen. Amen. Le loup. Vous savez que l'apôtre Paul, sa vie, vous savez comment il a commencé. C'est dans Acte 22. On tourne dans Acte 22. Il va nous expliquer où est-ce qu'il est né. Vous savez, pour ceux qui avaient fait des cours d'école du dimanche, comme on disait à l'époque, maintenant on dit le culte des enfants, mais vous savez où il est né. C'est une des leçons, je ne sais pas moi, il y a plein de monos d'école du dimanche dans la salle, mais ça doit être en CM1, CM2, on apprend Saul de Tarse. Tarse, né à Tarse. Bon, Tarse, ça vous dit quelque chose, Tarse ? Moi, personnellement, ma mono ne m'avait pas vraiment expliqué. Alors, on va essayer d'essayer d'aller plus loin ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire Saul de Tarse ? Tarse, c'est vous aimez la Turquie, le sud de la Turquie, vous voyez tous les belles plages magnifiques du sud de la Turquie, ça s'appelle la Cilicie à l'époque, la Cilicie. Et c'est le monde grec parce que moi j'ai eu un choc, ma culture était très limitée jusqu'à ce que en voyage de noces j'ai la chance d'aller visiter la ville de Éphèse. Et Éphèse, cette ville grecque, est en Turquie parce que les principales villes grecques en fait étaient sur la côte turque. C'était le même peuple, en fait. C'est pour ça que des Grecs étaient allés jusqu'à Marseille et que Marseille, c'était une ville grecque aussi. Vous voyez, les Grecs, c'était un peuple de marins. Ils s'étaient mis partout, d'accord ? Et ils s'étaient mis dans une ville qui s'appelait Tarse, qui était une ville florissante sur la côte sud de la Turquie. Aujourd'hui, c'est des stations balnéaires. C'est magnifique, Tarse. Donc, il est né à Tarse. Mais on le voit d'ailleurs dans Acte 22, au chapitre 22, au verset 3. Il précise, il dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem et c'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu comme vous l'êtes aujourd'hui. » Vous voyez ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il aimait vraiment Dieu. Dès le début de sa vie, l'apôtre Paul aimait Dieu. C'était un partisan de Dieu, un partisan farouche. Il était passionné pour Dieu et c'était un meurtrier. Et c'est ça qui est complètement, qui nous trouble, c'est qu'il pouvait être aussi dur tout en aimant étant autant le Seigneur. Regardez, il est né à Tarse, donc il parle grec. Il est citoyen d'ailleurs romain. Pourquoi il est citoyen romain ? En fait, ça permet de retracer assez le parcours de l'apôtre Paul. Pourquoi il y a une communauté juive dans à cet endroit-là ? Parce que en l'an 60, vous avez déjà entendu quand vous avez fait toutes ces histoires sur les Romains et Alésia, etc. Vous connaissez le général. Nous, c'était Jules César. Mais de l'autre côté, dans tout le monde orient, c'était le général Pompée. Vous avez déjà entendu parler de ça ? Le général Pompée. Et le général Pompée était déjà passé avec ses légions. Au même moment où la Gaule était envahie, le général Pompée lui est descendu avec ses légions dans tout le Moyen-Orient et il avait conquis la Palestine et donc il avait fait exiler des Juifs, toute l'élite déjà, toute l'élite du peuple juif avait vécu déjà une première diaspora. Et ils avaient été exilés dans toutes les villes romaines, tous les garnisons romaines. Donc, la famille de Paul fait partie de ces juifs de la diaspora qui ont été dans la culture grecque, parce qu'ils n'ont pas été élevés chez eux, mais qui étaient juifs tout en étant grecs. Vous comprenez l'idée? Je ne sais pas, il y a peut-être des personnes ici qui sont en France, ils sont à Créteil, mais ils ne sont pas complètement cristoliens, vous voyez? Parce que tu as un petit peu de soleil dans ton cœur qui te rappelle la Guadeloupe, etc. Et on est double culture, et même d'un point de vue chrétien. Des fois, tu as une foi qui est la foi de tes parents, tu essayes de la garder, puis ce n'est pas évident. Et il est à la fois juif, et puis il parle à la fois grec. Il a toute la culture du monde occidental dans lequel il est né, et en même temps, il a toute sa culture de sa religion, de sa foi. Pourquoi tout ce que je dis, c'est super important, parce qu'on va le voir plus tard. Élevé à Jérusalem, ça veut dire que ses parents devaient être suffisamment riches pour lui payer un internat à Jérusalem. C'est-à-dire que ses parents, parce qu'il y a eu un peu moins de persécution, donc l'élite juive qui était en diaspora partout dans le monde, ils ont pu renvoyer le petit Paul. On l'appelait Saul, parce que Saul, c'est le nom juif, comme Saül dans la Bible. Hein. On l'a renvoyé faire son internat auprès du meilleur. C'était le lycée Louis le Grand pour les Juifs, c'était Gamaliel. Gamaliel, c'est le meilleur des instructeurs sur la Torah. C'est la référence à l'époque, c'est le grand, le plus fin en doctrine juive. Donc, ses parents lui ont payé l'école Gamaliel. Et il a été élevé à Jérusalem. Alors, comprenez que quand il était petit, ses parents lui ont dit « Ciao !» Et quand on était élevé, c'était élevé très jeune. Hein. Ça veut dire qu'il a dû perdre ses parents, l'apôtre Paul, et c'est important pour comprendre sa vie. Il a dû dire au revoir à ses parents et prendre le bateau de Tarse pour aller à Jérusalem. Il a dû les laisser quand il devait avoir quoi, 5, 6, 7 ans, on ne sait pas. Mais ça veut dire que jeune, il a été placé tout de suite auprès de la grande école du judaïsme de Jérusalem. Et il est dit, il fut mon maître, il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. La loi de nos ancêtres. La loi de nos ancêtres. Il est né dans le bain, vous voyez. Et là-dedans, je suis sûr que dans cette salle-là, la plupart d'entre vous, vous êtes chrétiens parce que c'était la religion de quelqu'un avant vous. Il y a peut-être certains qui ont rejoint parce qu'ils ont été convaincus eux-mêmes comme ça, alors que vous n'avez pas de personne dans votre famille qui est chrétienne, mais c'est très rare. La plupart d'entre vous, vous avez quelqu'un qui vous a transmis en disant « Je t'ai enseigné ». Et vous voyez, la loi de ses ancêtres, il l'avait appris avec exactitude. Parce qu'il se disait, si je veux faire plaisir à ma maman, le seul chose que je peux lui accorder, c'est que je dis, je suis toujours un juif. Je suis toujours quelqu'un qui a respecté nos traditions. Et le fait d'être un militant dans sa religion, c'était quelque part rendre honneur à tous ceux qui étaient là-bas à Tars, qui étaient exilés et qui n'avaient pas pu vivre avec. Il dit, moi, je vais les honorer, je vais me mettre à fond. Et il a été passionné par la Torah, passionné par ce qu'est l'Ancien Testament, en fait. Il connaissait tout par cœur. Waouh. Moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment vous avez vécu le collège, mais moi, le collège, c'est l'époque où, lorsqu'on est un gars, qu'on a 13 ans, vous savez que la majorité juive, c'est à 13 ans, la bar mitzvah et tout ça, on commence à devenir un petit homme, là, et on choisit nos copains, et on est beaucoup modelé par nos copains. Alors, c'était qui les copains de l'apôtre Paul, à votre avis? Il est d'origine grecque, parce qu'il parle le grec, et en même temps, il est juif. Donc, il va se mettre avec qui? Ben, qui se ressemble, ça semble, c'est vrai partout. Et quand il est à Jérusalem, il a traîné avec les copains qui étaient certainement de la bourgeoisie juive, mais qui parlaient bien le grec aussi. Alors, on va tourner dans Actes, on va revenir en avant. Actes au chapitre 6. Actes au chapitre 6. Au moment où l'apôtre Paul est en train d'être enseigné par Gamaliel, dans une école de judaïsme, au même moment, il y a un homme qui meurt sur la croix. Qui est-il? Est-il le Messie, le Fils de Dieu? Ou est-il un charlatan, une secte? Je Lui, il est dans son école. Et quand il entend que Jésus meurt à la croix, certainement, il dit « Enfin, on s'est débarrassé d'un charlatan. » Il est élevé avec tous ses copains dans une foi qui est le judaïsme pur et dur. Mais vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a tué Jésus que c'est la fin du christianisme. Parce que le miracle, c'est qu'il est mort, mais il est ressuscité. Alors ça, le problème, c'est que pendant sa vie, Jésus avait moins de disciples qu'après sa résurrection. C'est le feu du Saint-Esprit qui remplit toute l'Église. Et des personnes juives qui n'ont pas forcément beaucoup d'instructions, il y a de tout, qui se convertissent le jour de la Pentecôte, c'est en acte 2, c'est incroyable à Jérusalem. Pierre, un marin pêcheur, zéro connaissance, même pas le brevet, il commence à parler et il fait une prédication, 2000 personnes qui se convertissent. C'est la folie qui se passe à Jérusalem. Il y a des gens de partout qui les entendent parler des merveilles de Dieu dans leur langue, des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des gens de Tarse, de Cilicie, c'est marqué dans le texte. Des gens de Cilicie. Ça veut dire qu'il y a des personnes d'origine grecque, juive et grecque, comme l'apôtre Paul, qui se convertissent, qui se donnent au Seigneur. Et ça, ça bouleverse le monde. Et l'apôtre Paul, il est jeune à cette époque-là, il voit ça, il dit « Mais c'est quoi ce délire ?» Il y a des personnes qui sont en train de se convertir et de dire que Jésus-Christ est le Messie, celui que l'on attend depuis toujours. Il dit « Mais... » Et donc il a des copains qui vont dans la secte, vous comprenez l'idée ? Et donc il se dit « Mais pas toi, tu vas pas devenir malade quand même, tu vas pas croire en Jésus, tu vas pas donner ta vie à Jésus, c'est quoi ? C'est n'importe quoi ! La loi et les prophètes disent « Il doit naître !» Il doit naître à Bethléem, il ne peut pas naître à Nazareth, c'est pas possible. Mais il n'a pas tout lu les Écritures, vous voyez, il fait partie de tous ces juifs super stricts. Et parmi les Grecs, parmi les Juifs grecs, il y en a un qui se convertit. Vous le connaissez bien, son nom c'est Étienne. Et voilà ma deuxième chose que je veux voir dans le loup, c'est que autant l'apôtre Paul est en train de se durcir et de devenir un loup, autant en même temps, vous connaissez ce verset qui dit « Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir. » C'est bizarre ce verset. Hein. Vous savez, si vous mettez un petit grain de blé et que vous le faites tomber dans la terre, le grain de blé, s'il refuse de mourir, il va rester qu'un petit grain de blé. Et Jésus dit « Mais s'il accepte de mourir, ce petit grain de blé va donner une gerbe, un épi. » qui va donner des milliers de grains de blé. Si le grain de blé... j'aime ce... Oh, je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin. Regardez dans Jean 12. Vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de faire là maintenant. Mais suivez-moi, restez attachés. Essayez de comprendre, je vais vous amener quelque part. Dans Jean 12. Là, cette fois-ci, je lis dans la version second. Dans Jean 12, l'évangile de Jean, chapitre 12. Vous savez que la Bible, elle est énorme. Parce que tout est prophétique dedans. Moi, j'ai vu ça hier, j'étais là. Non ! Vous ne l'avez jamais vu, je suis sûr. Ça m'étonnerait que vous l'ayez vu. Vous savez, je pense qu'à 85 ans, 86 ans, j'apprendrai encore plein de trucs de la Bible. On apprend toujours des choses. Est-ce que c'est possible de me l'afficher en version second, si c'est possible ? Jean 12, verset 20. Quelques Grecs, parce que dans la version sommaire, ils ont mis quelques non-juifs et c'est une erreur. Le mot exact, c'est quelques Grecs. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. On peut continuer ? Voilà, s'adresse à Philippe de Bethsaïda de Galilée. Nous voudrions voir Jésus. Il y avait déjà des juifs d'origine grecque qui voulaient voir Jésus, etc. Alors, donc voilà, c'est le bouche à oreille, on continue. Philippe alla le dire à André. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. À qui Jésus a répondu ça ? À des Grecs qui étaient là à Jérusalem. On reprend notre texte. On reprend notre texte. Gardez-le dans votre mémoire. On reprend notre texte. Acte 6. Acte 6. Alors, pendant que vous cherchez, je vous lis le début. Acte 6, verset 5, la proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Plein de foi et d'Esprit Saint. Et Philippe, on le retrouve là, d'accord ? C'est extraordinaire la Bible. Plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, c'est aussi un grec. Hein. C'est pour ça que c'est lui qui a parlé à un tel. La parole de Dieu se répandait, verset 7, toujours plus. Le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Étienne, verset 8. Étienne était rempli de la grâce, de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors des membres de la synagogue dite des affranchis, d'accord, composés de juifs, de Cyrène, d'Alexandrie, de, je veux l'entendre fort, de Cilicie, c'est-à-dire de Tarse, d'accord, de Cilicie, de la province d'Asie. Asie, c'est en fait c'est la province, on appelle ça l'Asie mineure, c'est le nord de la Turquie. Se mirent à discuter avec lui, mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ses paroles que lui donnait l'Esprit. Voilà, il y a un Paul qui est rempli de la loi et il y a un Étienne qui est rempli de l'Esprit. Et la vérité, c'est qu'avec toute ta culture, toute ta religion et toutes tes études, tu ne feras pas le poids face à quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Et le même Étienne, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Paul ? Et avec tous tes copains. Parce que Paul, il a choisi une bande de copains qui pensent comme lui. Donc il va au combat, vous voyez, je sais pas, moi pour tous ceux qui ont travaillé dans les facs, des fois quand vous témoignez à un ami, c'est chaud les discussions. Il y a des discussions avec vos amis, c'est chaud autour d'un café, ça peut être chaud. Mais non, mais je suis musulman, mais oui, mais Allah, c'est chaud. Et là, c'était ce qui se passe. Et Étienne, lui aussi est grec, il a la même culture que l'apôtre Paul. Il dit, je peux pas, c'est rien que je discute avec toi. Écoute, tu sais ce que je vais voir ? Dieu m'a guéri. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Quand tu racontes les miracles et les prodiges que Dieu a fait, ça les énerve les autres. Ouais, mais c'est un faux, c'est pas vraiment une guérison. Mais je te dis, ma mère, elle était malade, on a prié, l'apôtre Pierre est venu, on a imposé les mains, elle s'est relevée, alléluia, il est tout excité. Et puis l'apôtre Paul, c'est pas possible, ça peut pas exister. Il n'y a pas de miracle comme ça, c'est dans la tête que ça se passe. Et comme Étienne faisait plein de miracles et de prodiges, ça les énervait les autres. Parce qu'il dit, Étienne, t'es un lâche, t'es un traître, t'étais juif toi aussi, t'es grec et maintenant tu vas devenir chrétien. Ils étaient tellement énervés contre eux, contre Étienne, ils n'arrivaient pas. Parce que si tu te laisses rempli du Saint-Esprit, arrête de négocier avec tes collègues, d'accord ? Laisse-toi être rempli du Saint-Esprit. Va pas te chercher, demande à Dieu, Seigneur, qu'il y ait des miracles, des prodiges et des guérisons. Moi, je ne peux pas convaincre des personnes qui ont bac plus 7 qu'ils vont me dire « oui, mais ceci, mais cela ». Si tu veux, tu as un cancer, Jésus peut te guérir. S'il est guéri, il arrête de discuter. Il dit « ok, y a quelque chose que je ne maîtrise pas ». Et Étienne, c'était ça. Vous croyez que je peux creuser encore ? Ce n'est pas parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit qu'il ne va pas vous arriver des soucis. Et c'est ça le problème des chrétiens. C'est qu'on dit Seigneur, on commence une étude en disant Alléluia, c'est bien, le pasteur Yvan, il a dit qu'il faut être conduit par l'Esprit. Cool. C'est la misère, des fois. C'est la misère. C'est la misère si vous le voyez de façon humaine. Parce que là, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour Étienne, qui est une prophétie que Jésus avait donnée à propos de lui-même. Jésus est mort et Étienne est né. Vous arrivez à me suivre quand je dis ça ? Étienne va mourir. Et qu'est-ce qui va se passer ? Acte 7, verset 51. Acte 7, verset 51. Waouh ! Je ne sais pas combien il y a de personnes dans cette salle qui sont croyants parce que vos parents le sont. Là, je voudrais vous donner un véritable avertissement de la part de Dieu. Ça ne vous sauvera pas. Ce n'est pas parce que tu as été sérieux à l'école du dimanche, ce n'est pas parce que tu as fait ce que ta maman te disait, que tu iras au ciel. Il y avait un pasteur suédois très connu, Lévi Petrus, qui disait « Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. » Ce n'est pas héréditaire, le salut. C'est personnel. Et vous voyez, la foi de Paul était une foi héréditaire. Alors que Étienne, lui, il avait une foi personnelle. C'était lui qui avait rencontré Jésus. Et c'est pour ça que ça change la donne. Et ça énervait l'apôtre Paul. Il y a des miracles et des prodiges. Il leur explique. Étienne, il n'a pas peur. Vous voyez, il est rempli du feu du Saint-Esprit. Il ose dire les choses. Et il dit au verset 51, « Ô vous, homme obstiné, qui comme de véritables incirconcis, C'est-à-dire qu'il les traite de grecs, en fait, mais de grecs non pratiquants juifs. Gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste, avec un J majuscule comme Jésus. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. Et je crois que Dieu te dit ça ce matin. Et Dieu est peut-être fâché avec toi. Parce que, je ne sais pas comment vous le dire, tu as entendu trop de prédications, tu vois. Ça fait déjà 10 ans que tu traînes dans une église. Et tu sais à peu près ce que le pasteur va dire. Et tu sais exactement comment ça va se passer. Et quand le gars au piano va faire le piano et qu'il va y avoir l'appel. Et puis, je te donne mon cœur. Et là, tu dis, ouais, je te donne mon cœur, ouais. Et tu vas chanter, mais tu ne vas pas le vivre. Et tu vas être décalé. Et tu vas dire, j'ai ma... Je suis bien, moi. Et Étienne, il dit, t'es un cœur obstiné. T'es dur comme de la pierre. À l'intérieur, tu dis, oui, je suis, je sais, je lis ma Bible, je connais. Mais t'es dur à l'intérieur. Parce que en vérité, tu ne connais pas Dieu personnellement. Tes parents connaissent Dieu personnellement, mais toi, tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas d'histoire à raconter. Tu n'as rien à dire. Parce qu'à l'intérieur, tu sais simplement une tradition que tu as. Tu es de tradition chrétienne. Mais ça ne sert à rien. Parce que Dieu veut plus pour toi. Il veut que tu sois conduit par l'Esprit. Et pour ça, il faut que tu aies une révélation. Alors l'apôtre Paul, vous voyez, il n'a pas cette révélation. Je ne sais pas si... Je l'ai donné au culte concept il y a quelques temps de cela, mais je vais quand même le dire. Et je ne sais pas si c'est en trop, si je ne veux pas perdre de temps en racontant cette anecdote, mais je crois que ça peut toucher quand même quelqu'un. Et surtout un jeune qui est chrétien et qui est bien assis sur sa chaise et qui apparemment ne se lève jamais. Au Pérou, il y a quelques années de cela, il y avait un jeune homme qui s'appelait Malacio. Il était père de famille, il avait des enfants et une femme merveilleuse. Et il venait d'un village pauvre des montagnes. Il avait décidé que l'évangile, c'était pour tout le monde. Alors du coup, comme son village n'avait pas la possibilité d'avoir l'évangile, puisqu'il n'y avait pas de route carrossable pour y aller, donc les chemins étaient très, très escarpés, etc. Beaucoup de villages des montagnes du Pérou n'avaient pas reçu l'évangile. Et c'était dans les années 90. Et il a décidé de partir lui-même avec sa Bible et d'aller de village en village pour aller parler à ses copains, aux personnes, à toutes ces personnes qui venaient de sa culture, d'accord. Malachio est parti avec la Bible, il a commencé à prêcher. Au bout de quelques temps, il a reçu des menaces de mort, parce que vous voyez, dans ces endroits-là, quand vous commencez à changer les choses, ça énerve soit la guérillera, les guérilleros, là, et toute la guérilla qui veut contrôler le trafic de cocaïne et tous ces ou bien tous les petits trafics tout simplement même les et puis d'un autre côté vous avez les paramilitaires de l'État qui sont aussi mafieux que les autres, enfin, bref. Et donc il a commencé à mettre le bazar, parce que quand l'évangile arrivait, les gens ils disaient j'arrête de faire mes bêtises, et ça a désorganisé tout le commerce, vous voyez, parce que le Saint-Esprit rentrait, les vies étaient changées. Ils ont envoyé une lettre à Malacio, ils ont dit Malacio, tu arrêtes de porter l'évangile, tu arrêtes de tenir cette Bible dans ta main, tu arrêtes de marcher sur nos sentiers des montagnes pour parler de l'évangile, tu arrêtes tout ça maintenant. Et il a continué pendant quelques mois, quelques années. Un jour, Malacio n'est pas revenu. On a retrouvé son corps dans un fossé et ils avaient coupé ses bras et ils avaient dit, on t'avait dit de ne plus jamais porter l'évangile. Ils avaient coupé ses pieds, ils avaient dit, on t'avait dit de ne plus jamais marcher sur nos sentiers. Et il y a eu pour le jour de l'enterrement de Malacio, il y avait énormément de monde, de tous les villages. Les personnes étaient venues. Et dans cette foule, le pasteur qui raconte ça, il y était. Il disait, on avait mis même la sono dehors, il y avait trop de monde partout. Et ils ont fait un appel, ils ont dit, voilà, Malacio est mort, etc. Il a donné sa vie pour Jésus, etc. Bon, et il y avait plusieurs. Les gens étaient touchés, ils pleuraient parce qu'on disait, ah, c'est triste, pourquoi Dieu ne l'a pas protégé, pourquoi le Seigneur n'a pas gardé le son de serviteur, etc., comme tu es en train de te dire là. Et il y a quelqu'un, un pasteur ou quelqu'un dans la salle qui a dit, y a-t-il quelqu'un qui veut se lever pour reprendre la place de Malacio? Alors il y a deux, trois anciens qui ont dit, mais attendez, c'est malade, on va arrêter ça, quoi. Et là, il y a un jeune qui s'est levé devant et qui a dit, moi, je suis prêt. Puis deux, puis trois, puis puis 4, puis 10, puis 100. Et en fait, cette région du Pérou a été évangélisée en l'espace de un an. Il y a eu tellement de jeunes ce jour-là qui sont levés pour Dieu que pour un qui était mort, ça a été le feu partout. Et vous voyez, dans l'évangile, c'est ce qu'on lit là. Parce que la phrase d'après, dans 54, il est dit à ces mots, quand il dit « arrêtez, changez, arrêtez de dire vous connaissez Dieu parce que vous avez une religion. » À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient dedans contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, alors il s'écria, il continue, il ne s'arrête jamais lui, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Alors ils bougent leurs oreilles, ils sont fous. Écoutez, je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ils se mirent à vociférer, à se boucher les oreilles. De même, d'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville, le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé. Et on le retrouve là. Il était là, le juif grec, qui s'appelle Saul. Et pendant qu'il jetait des pierres sur Étienne, il priait en disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces, il lança un dernier cri. « Seigneur, je ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Alors vous dites « Mais Seigneur, pourquoi tout ça ?» Le verset d'après, Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée, la Samarie, à l'exception des apôtres. Ils vont partout. En fait, le mal est transformé en bien parce qu'il y a des gens qui... Des fois, Dieu, je ne sais pas, hein, ça va vous énerver, hein, mais vous avez le même Dieu que moi. Des fois, il va casser vos projets pour que ça aille beaucoup plus loin. Et là, ça part, l'évangile, dans le monde entier. Dans le monde entier, ils se dispersent. Enfin, ils arrêtent d'être les chrétiens arrêtent d'être un club. Que l'église de Créteil, on ne devienne jamais un club. Et là, le verset qu'on a vu tout à l'heure doit vous interpeller. Qu'est-ce que Jésus avait dit aux Grecs? Jésus avait dit, si le grain de blé meurt, accepte de mourir, il porte du fruit partout. Regardez ça. On termine ce matin. Je suis en retard. Pardonnez-moi, mais je vais terminer. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais je veux pas gâcher non plus la conversion de Saul. Vous acceptez, on termine par le plus beau. Acte 9. Prenez avec moi acte 9. Acte 9. On était là tout à l'heure. Il se dirigeait donc vers Damas, verset 3. Il s'approchait déjà de cette ville, quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre, entendit une voix qui lui disait « Mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Mais qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours, ne mangea ni but. L'agneau. On a vu le loup, on va voir l'agneau. L'agneau, c'est quand tu as une révélation personnelle de Dieu. Il va falloir, toi, qui es né dans une famille chrétienne, qu'un jour tu vives toi-même cette expérience où tu lâches prise devant Jésus. Où tu dis, mais Seigneur, je ne te connais pas en fait. Et tant que tu n'es pas arrivé là, tu n'as rien à apprendre parce que Dieu ne se révélera pas à toi tant que tu n'es pas prêt à poser la question. Mais l'apôtre Paul, il dit, mais Seigneur, ça veut dire que je me suis trompé, mais tu es qui? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu vas te convertir, tu vas devenir un agneau, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Parce que vous voyez, quand tu es un loup, tu as la chasse. Qui c'est qui dirige le loup? C'est lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez déjà vu des loups? On ne donne pas d'ordre à un loup. Il décide, le loup. Mais quand tu es un agneau, tu suis les consignes du bon berger. Et ça va tout changer. Et regardez la première chose que Dieu lui dit. Il dit, je suis moi Jésus, mais relève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Tu vas arrêter d'être ton chef, apôtre Paul. Tu vas arrêter de dire, je sais, je sais, je sais. Maintenant, c'est on va te dire. Ah, tu as fait des années dans la meilleure école. Tu as fait le Louis le Grand du judaïsme. Mais je peux te dire, tu ne me connais pas. Et comme tu vas devoir tout réapprendre à zéro maintenant avec Jésus. Et tu vas réapprendre les bases. Et ça a commencé par le fait de dire, ok, j'écoute avant d'enseigner les autres. J'écoute. Il était par terre. Dieu le relève. Dieu lui dit, lève-toi. Si tu n'as jamais vécu un moment où tu étais par terre devant Dieu, c'est que tu n'as pas fait de demi-tour. Parce que vous voyez, lorsqu'on est en train de marcher dans une caravane, eh ben, Dieu le met par terre pour qu'il fasse un demi-tour. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'économie d'un jour de dire, Seigneur, je suis à côté de la plaque, je suis par terre. C'est ça, une conversion. Pour devenir un agneau, il faut accepter de dire, on fait mourir le loup, quoi, quelque part. Il faut que tu es allongé par terre, une fois que tu es en pleurs devant le Seigneur. Là, Dieu te dit, lève-toi, lève-toi. L'apôtre Paul, vous imaginez, le gars, il a son master en théologie et tout. Et on lui dit, il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. C'est qui qu'on prend par la main d'habitude? Moi, je prends Ethan par la main, un an et demi. Vous imaginez, le gars, docteur, machin, super élite, il avait plein de gardes. Les gars, est-ce que tu es assez humble pour accepter ça? Quand tu deviens un agneau, il y a un moment où ton orgueil, tu marches dessus. Quoi. Et tu dis, Seigneur, ok, je te suivrai. Je te suivrai même si je passe pour un ridicule. Normalement, quand tu es vraiment touché par le Saint-Esprit, tu n'en as plus rien à faire de ce que les autres pensent de toi. Tant que tu es en train de te dire, parce que c'est le dimanche matin, tu es touché par la prédication, j'espère que mon mascara ne va pas couler, j'espère que... Écoute, il n'y a pas de souci, rentre chez toi avec ton mascara, nickel. Il n'y a pas de problème. Garde ton mascara, garde ta super coupe de cheveux, garde tout nickel, c'est bien, continue comme ça. Mais vous voyez, à un moment, quand tu es bouleversé par le Saint-Esprit, tu es par terre. Quoi. Et il accepte, il est traîné, il avance. Vous avez vu 9 jours 3 jours, pardon. Verset 9, pardon. Verset 9, c'est marqué 3 jours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rien faire? Mais quand je dis rien du tout, vous êtes aveugle, vous ne faites rien, vous ne mangez pas pendant 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 3 jours, il ne mange pas. Vous savez pourquoi il ne mange pas? Là, je n'avais pas vu ça. Mais je pense que si je crois maintenant pourquoi il ne mange pas. Parce qu'il est là, il est en train de se dire, c'est pas possible quand même. J'ai appris tout ça. J'ai approuvé le meurtre d'Étienne. Je pense à une telle que j'ai amenée en prison. Je pense à cette maman à qui j'ai arraché les enfants. Je pense à ce papa que j'ai fait battre devant ses enfants parce qu'il était chrétien. Et là, il doit... Pendant 3 jours, c'est long. Hein. Pendant 3 jours, il ne mange plus. Quoi. Parce qu'il se dit, mais c'est nul ma vie. Quoi. Ça, c'est une conversion, vous voyez. Tant que tu es en train de dire, oui, mais je veux bien du Seigneur, je connais le Seigneur. Si tu n'as pas une conviction de péché, tu as un problème. Si tu trouves bien comme tu étais avant, ben, tu n'as pas besoin de rencontrer Jésus. Mais quand tu rencontres Jésus, tu te trouves tellement nul que tu passes 3 jours à ne pas manger presque, normalement. Sauf si tu as une excellente opinion de toi-même. Mais l'apôtre Paul, il est par terre. Il est par terre, il est en prière. Il dit, Seigneur, non, c'est bon, laissez-moi là. Et il est bouleversé. La fin de ce texte. Oh, vous savez que l'apôtre Paul a un appel particulier sur sa vie, hein. Parce que Ananias doit aller le chercher. Dieu parle à Ananias pour aller chercher l'apôtre Paul. Ananias, il dit non, mais Seigneur, tu es bien sûr que tu donnes la bonne consigne à la bonne personne. Parce que l'apôtre Paul, normalement, c'est un fou furieux. Hein. Donc, à moins que tu aies vraiment une bonne raison de me dire et que tu veux en gros me condamner à mort, je vois pas pourquoi je vais aller l'aider. Mais le Seigneur répondit à Ananias. Il lui dit, verset 15, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi, Dieu bénisse les Grecs, ainsi qu'aux Israélites. Et je lui montrerai moi-même tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Wow. Dieu a un plan pour lui. Et vous voyez, c'est pas Paul qui va se conduire. Et c'est pour ça que c'est la leçon numéro 1 de conduit par l'esprit. Parce que Dieu dit, je lui montrerai. À partir de maintenant, l'apôtre Paul, tu ne vas pas suivre les consignes de ta maman qui t'a amené de Tarse à Jérusalem. Tu ne vas pas suivre non plus que les conseils de Gamaliel, mais tu vas prendre directement conseil auprès de Jésus. Je lui montrerai ce qu'il doit... Et attention, hein, si tu suis le Seigneur pour avoir une vie bénie, tu es à côté. Hein. Tu es à côté. C'est pas ça que il dit, je lui montrerai ce qu'il doit lui-même souffrir. Parce qu'il est lui aussi qu'un grain de blé qui va porter énormément de fruits. Vous savez qui vous êtes, vous? Vous êtes les bénéficiaires du grain de blé qu'était l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit les deux tiers de la Bible, le Nouveau Testament. C'est lui qui a écrit les deux tiers. Si vous êtes là ce matin, c'est à cause de lui. Je dirais même plus. Vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? Parce qu'il a été torturé. Parce qu'il était mis en prison. Parce que s'il n'avait pas été mis en prison, il n'aurait pas eu le temps d'écrire. Et s'il n'avait pas écrit, vous ne seriez pas là ce matin. Donc c'est parce que l'apôtre Paul a souffert beaucoup plus que tout le monde qu'on est là ce matin. Ça vous trouble, ça vous... Mais c'est comme ça. C'est... Alors qu'est-ce qui se passe? Je fais ma conclusion, qu'est-ce qui se passe? Il est en feu l'apôtre Paul au début. Il est tout bouillant. Il est tout bouillant. Parce qu'il est dit, Ananias vient, il lui impose les mains, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois, verset 17, rempli du Saint-Esprit. Au même moment, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul. Il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Il mangea, reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Il met le feu à la ville de Damas. Il a changé complètement. Il commence à dire, voilà, au nom de Jésus, celui que lui, il change tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, ils vont le virer. Et même, ils vont l'extrader d'ailleurs, même plus que ça. C'est parce qu'en fait, il va y avoir tellement de persécutions pour avoir la peau de Paul à Damas que les chrétiens vont l'extrader de nuit. Par une corbeille, direction Jérusalem. Alors quand il arrive à Jérusalem, vous dites, ah enfin, il y a les copains qui vont l'accueillir. Parce que si vous connaissez les chrétiens, vous les appelez vos copains, vous. Vous avez les mêmes frangins spirituels que moi. Ah, ils sont gentils quand ils vous voient venir. Ils disent, on est content que tu sois parmi nous. Mais c'est très froid comme accueil. Parce qu'ils regardent ton passé, ils regardent la taille de ta mini-jupe, ils regardent tes cheveux, ils regardent ta façon de parler, deux, trois gros mots. À prendre avec des pincettes, celle-là. Et c'est exactement pareil. L'apôtre Paul, quand il arrive, c'est pas acquis. Hein. Tout le monde lui fait la tête dans l'église. Il n'y a personne qui veut lui parler à Jérusalem. Bienvenue dans la famille. Là, je te dis, si jamais tu as envie de rencontrer le Seigneur, il va falloir que tu passes certains obstacles derrière. Hein. Et l'apôtre Paul, et le dernier point, verset 27, je termine vraiment là. Et je pense que c'est un conseil que je vais donner à toi qui veux t'engager avec Dieu. À son arrivée à Jérusalem, il essaya, donc verset 26, pardon. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Il essaya. J'espère que toi aussi, tu essayes de te joindre aux disciples. Parce que t'inquiète pas, si tu ne viens pas aux réunions, on ne viendra pas te chercher. Hein. Mais tous avaient peur de lui. Car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu disciple. On a du mal à prouver qu'on a changé. Hein. Mais Barnabas le prit avec lui et le conduisit auprès des apôtres et raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur et comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Amen. Dernière chose que je te dis ce matin. Aie un ami. Prie que Dieu t'envoie un ami. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Conduit par l'Esprit, l'important d'être deux dans la même mission. Trouve un ami. Je bénis le Seigneur parce que j'ai, à chaque fois dans ma vie, au moment où j'allais pas tenir forcément, parce que vous voyez, on part bien motivé, mais si on n'a pas un relais qui nous aide, on est mal barré. Vous avez vu comment ils font les coureurs autour de France? Ils prennent toujours un équipier qui a un relais, parce que sinon ils explosent tous dans la montagne. Ben, c'est exactement pareil. On est sur la montagne de la vie, mes amis. Trouve un relais. trouve un ami. Moi, je sais, je peux vous citer les personnes qui ont été les relais de ma vie. En 95, j'ai quelqu'un qui s'appelait Florian, il était déterminant dans ma vie. C'est parce que lui était spirituel, il lisait sa Bible, il motivait. Et du coup, je prenais exemple sur lui, il m'a tenu vers le haut. Puis après, parce que la vie nous sépare, on va perdre peut-être certains amis, d'accord ? J'ai trouvé un ami formidable qui s'appelle Benjamin. On est allé évangéliser, il m'a gardé au chaud, il me remotivait. Et Benjamin, un jour, j'ai dû partir. Lui, il est parti ailleurs, on est parti, on s'est quitté. Puis le Seigneur, vous voyez ce que je veux dire ? Trouve des relais, trouve. Si tu n'as personne avec qui tu peux partager ta foi, ce n'est pas de la faute des autres. Essaye, essaye, essaye. L'apôtre Paul, il a dû essayer, essayer. Dieu dit, ok, il essaye vraiment. Les chrétiens ne veulent pas le recevoir. Il y a forcément quelqu'un à qui Dieu va mettre toi à cœur. Et Barnabas va aider Paul. Amen. On ferme les yeux ensemble. Le loup est devenu un agneau. Étienne meurt après avoir une révélation de Jésus. Quand Étienne meurt, le ciel est tellement ému et tellement touché. Lui, le juif grec, quand il meurt après avoir été fidèle, Jésus se lève pour qu'il rentre. On se lève pour Étienne quand il rentre au ciel. Alors que son corps lui tombe dans la terre. Dieu dit, je ne vais pas laisser ça sans suite. Et il met dans le cœur d'un autre homme qui s'appelle Paul de se lever pour Jésus. Faut-il que tu aies une révélation de Dieu ? Est-ce que tu connais qui est Jésus ? Est-ce que tu suis une religion ou est-ce que tu as une relation avec Dieu ? Est-ce que tu le suis par tradition ou parce que tu le connais ? Est-ce que les histoires de Jésus, c'est pour les autres ou est-ce que tu as quelque chose, toi, à raconter ? Est-ce que tu peux me citer un moment où tu as plié le genou, où tu étais par terre devant Dieu et tu as dit « Dieu, ma vie sans toi, c'est nul !» Alléluia. Oh, Jésus. Saint-Esprit descend sur nous. Alors que nos yeux sont fermés, on va garder un temps ce matin juste pour eux, demander au Saint-Esprit de descendre sur nous. Je pense que la prédication va te toucher peut-être, peut-être pas. À la rigueur, Étienne, avec sa prédication, n'a même pas réussi à toucher le cœur de l'apôtre Paul. Mais je t'en supplie de quelque chose. Demande à Dieu de se révéler à toi. Si tu as le cœur trop dur ce matin pour te donner à Jésus, je vais prier pour toi pour que tu connaisses qui est Jésus. Tu es bloqué sur tes principes, tu es bloqué sur ta religion. Peut-être que tu n'es pas. D'ailleurs, tu n'es pas de religion chrétienne et tu as essayé d'être fidèle à ce que tes parents t'ont enseigné, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, etc. Est-ce que tu connais Jésus ? Il peut changer ta vie. Il peut changer ta vie.
Saint-Esprit descend sur nous.
demander ce matin à toute personne qui a envie de s'engager avec Jésus, qui est sincère quand il dit « Je veux connaître Jésus, je veux une révélation personnelle de Jésus. » Mets-toi à ta place, lève-toi à ta place, mets-toi debout. C'est plus facile que je te dise « Mets-toi debout » que peut-être un jour Dieu devra te mettre par terre, d'accord ? Vaut mieux que tu te mettes debout maintenant. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... C'est peut-être la première fois que tu te mets debout, que Dieu te bénisse. Mais peut-être ça fait aussi quelque temps que tu connais déjà Jésus. Et tu dis, Seigneur, là je suis en train de tomber dans une religion, j'ai besoin de nouveau, j'ai faim de Jésus. Lève-toi à ta place aussi. Ah, peut-être les autres vont te juger, mais si ça t'importe, alors reste assis. Mais peut-être tu as besoin d'une fraîche révélation de Jésus. Lève-toi à ta place tout simplement. Tu es chrétien depuis des années, mais tu dis, Seigneur, je veux voir le ciel ouvert. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je prétends pas te connaître assez. Je veux quelque chose de nouveau, Seigneur. Je veux voir des nouveaux aspects de toi. Je veux apprendre des choses sur toi. Révèle-toi à moi dans mon culte personnel. Révèle-toi à moi dans les moments de prière, d'intercession. Révèle-toi. J'ai faim de toi, Jésus. On va reprendre le Saint-Esprit.
Saint-Esprit, descends sur nous.
Adorer Dieu dans cette salle, on va tous se lever ensemble un instant. Ce matin, je voudrais qu'on puisse célébrer le Seigneur. Louer Dieu à votre place, commencez à dire Seigneur, Alléluia, j'ai faim de toi, je veux aller plus loin, je veux pas de la routine dans ma vie, je voudrais une fraîche onction de Dieu. Alléluia Jésus, mets le feu dans ton église Seigneur, mets le feu sur nos vies. Seigneur, enlève en nous toute religiosité, enlève en nous tout ce qui est vraiment de la routine, mets en nous une passion fraîche pour Jésus. Seigneur, on veut être en feu pour toi, on veut être conduit par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Alléluia.
Saint-Esprit descend sur nous.
Touche nos vies,
Seigneur. À nouveau touche nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Descend sur nous.
Que ta puissance vienne.
Que ta puissance vienne. Que ta voix résonne.
Thank you.